Bonjour à tous. Ah. On le porte tellement, c'est devenu une habitude, on ne le sent même plus. Et pourtant, je ne prends pas plaisir à le porter, hein, les gars, je vous le dis. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas au groupe de louanges pour ce moment. Et ça fait du bien de savoir que dans 2 semaines, on va pouvoir de nouveau se retrouver ensemble pour pouvoir louer Dieu. Tout à l'heure, pendant qu'on était en train de louer, je m'imaginais avec l'église remplie et d'entendre toutes les voix s'élever vers Dieu en même temps. Wow, ça va me donner des frissons. Dernièrement, je suis parti me balader un jour de bon temps. Donc un jour de bon temps, ça date. Hein, il y a plus d'un mois, effectivement. Je suis parti du côté de l'abbaye d'Aune, pour ceux qui connaissent. Et j'ai un petit endroit où je vais régulièrement me balader pour simplement admirer la nature, pour pouvoir me poser, pour pouvoir prier et méditer également. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé au travers, en fin de compte, de toutes les choses, de toute sa création. Et donc j'étais en fait sur le chemin du halage, en train de marcher. Et tout d'un coup, je me pose la question à savoir si dans cette eau noire, trouble, est-ce qu'il y a des poissons? Et je me suis dit, mais jamais j'en ai vu, ce serait cool de pouvoir voir un poisson à l'état sauvage d'une certaine manière. Et donc je commence à regarder, à observer, bon je vois rien, je continue ma marche. Et incessamment, je m'arrête, je me pose et je me dis, mais allez, ça serait cool de pouvoir voir quand même quelques poissons là à l'état sauvage. Et puis, je commence à observer, je vois des petits sillons se former, je vois des petites bulles, etc. Et tout d'un coup, je vois un poisson non loin de moi. Et puis, je me dis, ah, mais en fait, il y en a vraiment, on ne nous a pas menti, quoi. Il y a vraiment des poissons. Et je me dis, bah, tiens, ça serait cool d'en voir d'autres. Et puis, je continue d'observer. Et puis, j'en vois un deuxième, un troisième. Et tout d'un coup, je vois un petit banc de poissons comme ça passer. Et j'étais émerveillé. Je me suis dit, ah, mais c'est magnifique, en fait, à voir. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que c'était, d'une certaine manière, au travers du naturel, Dieu était en train de nous donner une leçon spirituelle. Et on nous parle, en fait, on parle tous ensemble, à l'Église, depuis un moment, de notre mission. Cette mission qui est de faire de toutes les nations, de toute cette région, des disciples. D'être la lumière dans ce pays noir, d'être le sel qui apporte le goût du salut et de la vie éternelle aux personnes qui sont éloignées de Dieu. Et on prend clairement conscience de ce mandat d'ambassadeur, mais on se pose également encore beaucoup de questions. Parler de Dieu, ok, mais à qui? Parler de Dieu, ok, mais comment? Comment on fait? Comment on s'adresse à quelqu'un? Comment on fait pour parler de Dieu à quelqu'un sans s'enterrer la tête comme une autruche dans la terre? Comment on fait ça? Et il y a un passage dans la parole qui m'a vraiment beaucoup encouragé, que je vais vous partager, qu'on va méditer ensemble, qui est dans Jean 4, de 27 à 41. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va le lire ensemble. Je donnerai le contexte après parce qu'il est quand même important, mais je ne voulais pas faire toute la lecture, sinon ça ferait trop long. Donc je lis Jean 4, 27, il est mis là-dessus, arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: que lui demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Donc on est dans le contexte de la femme samaritaine. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant: maître, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait peut-être apporté à manger? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Amen. Quelle fin de texte incroyable. Nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Donc pour remettre un petit peu le contexte, donc le passage précédent, on voit que Jésus surprend tout le monde. On voit que Jésus parle à une femme et il a clairement dérouté tous ses observateurs, que ce soit premièrement la femme, que ce soit ses disciples. Il a dérouté tout le monde parce que les concepts et les traditions de l'époque ont été chamboulés. Jésus s'adresse aux opprimés et il s'adresse également aux rejetés de la société. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que le fait que Jésus parle à une femme en public, à l'époque, c'était clairement choquant. Les préjugés de l'époque interdisent toute conversation publique entre un homme et une femme. Et donc, rien que déjà à partir de là, Jésus bouleverse cela. Deuxième chose, Jésus va plus loin. Étant donné qu'il parle à une femme samaritaine, il était tout simplement impensable qu'un juif s'adresse à un samaritain, à une samaritaine, parce que pour eux, ils étaient impurs de par leur race et de par leur religion. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette femme a une mauvaise réputation. C'est une femme qui a eu de nombreux mariages et qui vit au moment du passage dans le concubinage avec quelqu'un d'autre. Et évidemment, c'était très très mal vu. Donc on a en fait ici tout un cocktail parfait de ce qu'on retrouve dans le monde et en fin de compte dans nos bulles sociales. On a tous grandi avec des personnes qui ressemblent à cette femme. On a tous été à un certain moment, en fin de compte, cette femme. Nous l'avons tous été. Et on a tous grandi également avec une éducation familiale qui engendre des préjugés envers telle ou telle personne, telle ou telle communauté, telle ou telle religion, telle ou telle classe sociale. J'en passe. Et on a tendance, en fin de compte, et c'est normal de s'associer et de se connecter avec des personnes qui ont des affinités avec nous, mais souvent, on rejette et on s'éloigne de ceux qui sont différents de nous. Mais on voit que Jésus, lui, il n'a pas eu peur, en fin de compte, de confronter ça. Il était juif, elle était samaritaine, c'était un homme, elle était une femme, et pourtant Jésus vient et il brise toutes les barrières. Toutes les barrières tombent. Tout comme les Juifs ne voulaient pas se mélanger, se connecter aux Samaritains, souvent il nous arrive de nous éloigner de ceux qui sont différents de nous. Nous sommes chrétiens, ils sont non-chrétiens, et on s'éloigne d'eux. Et parfois, on laisse malheureusement une distance bien trop grande entre l'Église et le monde. Mais pourtant, c'est en rencontrant des personnes différentes, avec des cultures différentes, avec des mentalités différentes, qu'on pourra expérimenter celui qui vit en nous, qu'on pourra, en fin de compte, accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Jésus est l'exemple parfait de ce qu'est l'amour. Et c'est ce qu'on découvre avec l'histoire de Jésus et cette femme samaritaine. Alors que Jésus, imaginez-vous, alors que Jésus revient de plus de 3 jours de marche, déjà 3 jours de marche, c'est quand même costaud. Ceux qui ont été courir hier à Tervuren, ben, je ne sais pas exactement combien ils ont fait, 2,5 km, 10 km, c'est déjà costaud, on a mal aux jambes, on a mal. C'est quand même costaud. Jésus, il a fait 3 jours de marche. Et ce n'est pas 3 jours de marche ici sur Charleroi où tout est plat, on est sur du désertique. Il fait chaud, c'est compliqué. Et là, Jésus, après 3 jours de marche, arrive au puits de Jacob. Il est fatigué. Jésus était pleinement humain, il était clairement fatigué dans son corps. Et là, il rencontre une dame qui vient, elle, sur le temps de midi. Parce que sur le temps de midi, c'est là où il fait le plus chaud, à cet endroit, dans cette région. Et pourquoi elle fait ça ? Parce que elle veut éviter le regard des autres. Elle veut éviter qu'on la voie. Parce que c'est une femme de mauvaise réputation, elle préfère venir sur le temps de midi, parce qu'il fait très chaud, et au moins, ok, on ne me verra pas, je passe incognito. Et là, Jésus est là. Et malgré sa fatigue, malgré ses besoins physiques, parce qu'il a soif, Jésus s'arrête et il se connecte à cette personne. il se connecte à une personne complètement différente de lui. Et il brise les barrières posées par l'homme pour instaurer un régime diamétralement différent de tout ce qui se fait à l'époque. C'est l'amour, en fait, qui va permettre à Jésus de se rapprocher et de se connecter avec cette femme. C'est l'amour qui va pousser Jésus à briser les traditions et les préjugés. C'est l'amour qui a permis à Jésus de demeurer après. Après toute cette histoire, on voit que Jésus reste 2 jours avec les Samaritains, dans leur ville, parmi des personnes impures pour le peuple juif. Il va demeurer là, et il va enseigner, et il va, comme il le dit, il est en train, en fin de compte, de moissonner, et de répandre l'eau vive. Il désire transmettre cette eau vive qui satisfait pleinement les besoins les plus profonds. Et c'est pour cela que Jésus, à un certain moment, dit à ses disciples, « Oh les gars, levez les yeux. Levez les yeux, regardez, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Mes amis, le monde est assoiffé de Dieu. Regardons autour de nous, le monde est assoiffé d'une soif inexplicable de recherche de sens. On part dans tous les sens, on essaie de satisfaire nos besoins de multiples manières. Mais simplement parce qu'on a un vide en forme de Dieu en nous et on veut le combler. C'est pour ça que Jésus dit, levez les yeux. Il y a un peuple, il y a des milliers, des millions, des milliards de personnes qui ont soif et qui attendent qu'on puisse parler de celui qui apporte l'eau vive, cette eau vivifiante. Alors, comment vivre cette parole? Vous allez me dire, ok, d'accord, mais ok, comment on fait? Comment on rentre? Comment on participe à la moisson? Quel est le champ que Dieu a préparé pour nous en 2021? Observons juste quelques principes que Jésus nous laisse pour nous permettre d'apercevoir cette moisson abondante. La première chose, c'est chercher la nourriture spirituelle. Jésus nous apprend que la nourriture spirituelle, en fin de compte, se compose de 2 choses. La première, c'est de faire la volonté de Dieu, et la seconde, c'est d'accomplir les œuvres de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Un point qui revient régulièrement lorsqu'on discute avec des gens. Tiens, comment je fais pour connaître la volonté de Dieu? Comment je fais pour savoir si la volonté de Dieu, c'est si telle personne va être mon épouse, mon époux, mon futur travail, etc., machin, machin. C'est une question essentielle et qui pourrait être clairement expliquée et d'une manière bien plus complète de ce que je vais le faire. Moi, je vais vraiment raccourcir parce que ce n'est pas le thème du texte. Mais si je pouvais résumer simplement ce qu'est faire la volonté de Dieu, courtement, je dirais 2 choses. Écouter sa parole et obéir à sa parole. Un exemple frappant, c'est celui de Jésus lorsqu'il est dans le désert, qui jeûne 40 jours, 40 nuits. Et on voit que Jésus a faim, encore une fois, les besoins physiques se démontrent, comme quoi Jésus était pleinement humain, il a vécu ce que nous, quand nous on est affamés, quand on est assoiffé, qu'on a des besoins naturels, Jésus les a vécus. Et alors qu'il est en train de vivre ça, le diable vient et il lui propose de transformer des pierres en pain pour satisfaire ses besoins physiques. Et Jésus lui répond en utilisant la parole. Un verset du Deutéronome qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus n'a pas fait qu'écouter, il a également obéi, il a également agi. Il a rendu en fin de compte cette parole vivante. Il ne l'a pas gardée uniquement dans son cœur, il l'a proclamée et il a fait prendre vie à cette parole. Et notre capacité de résistance face à l'adversité, face à nos préjugés, face à nos raisonnements, face à des choix compliqués, réside en une personne. Elle réside en Christ. Et Christ, nous le découvrons au travers de la parole. Nous pouvons faire face lorsque notre être entier est centré sur la parole de Dieu. Car La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tout se recoupe. Ces paroles que nous lisons, ces histoires que nous lisons dans la parole de Dieu, nous font prendre conscience réellement de qui il est. Plus nous la lisons et plus nous laissons l'Esprit nous montrer réellement qui est Dieu, il nous révèle Christ. Et plus il nous révèle Christ, en fin de compte, plus on pourra faire face à toutes ces choses, de la meilleure manière qu'il soit, pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit faire son rôle d'enseignant, il renouvelle notre intelligence pour développer notre être spirituel, mais également notre discernement spirituel, qui nous permet, en fin de compte, de penser selon le cœur de Dieu, d'agir dans sa volonté, mais également d'observer et d'apercevoir la moisson à laquelle Dieu veut nous faire participer. Tout ça, en fin de compte, ça provient d'une seule chose, une rencontre qui découle après de l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous ne pouvons connaître la volonté de Dieu sans aller à sa rencontre et nous ne pouvons l'accomplir sans avoir été travaillés par l'Esprit. Donc, premier point, faire la volonté de Dieu. Le deuxième, l'œuvre de Dieu. On voit que, en fin de compte, Jésus ne dissocie pas la rencontre avec le service. Dans ce contexte, Jésus refuse de se nourrir pour s'occuper de la nourriture spirituelle qui consiste à s'occuper de la moisson qui est prête à être moissonnée. Son choix se porte sur l'appel de Dieu, l'appel que Dieu place en lui pour faire connaître l'évangile aux Juifs premièrement, mais également aux non-Juifs. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Jésus est en train d'annoncer que l'évangile est la priorité car ce travail, c'est celui qui porte du fruit dans l'éternité. Mais également, Jésus annonce que se nourrir spirituellement, c'est donner de soi pour Christ. Et c'est là, en fait, en fin de compte, un tournant du texte, parce que la nourriture spirituelle, c'est savoir recevoir de Dieu pour pouvoir, en fin de compte, mieux donner et transmettre. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre nous permettent de poser des bases pour entrer dans la mission de la moisson. Le deuxième principe que Jésus nous laisse, c'est de lever les yeux. Après être passé, on va dire, par la case instruction et revêtement, il va nous pousser vers les personnes qui auront besoin d'entendre ce message. Et pour ce faire, donc, Jésus, il recommande à ses disciples de lever les yeux et de constater que la moisson est là. Souvent, on se dit, quand l'Esprit nous anime et nous dit « Waouh, va parler à telle personne » ou « On est en pleine discussion avec quelqu'un et on a envie, on sent au plus profond de nous qu'on devrait parler de Dieu, mais on n'ose pas. On a des craintes, on a des peurs. » Et elles sont légitimes. Je comprends toutes ces choses. Et le problème, c'est que nous procrastinons et on se dit « Ok, on va remettre ça demain. Ok, là, je pense que la personne, elle est pas prête. » On se trouve, en fin de compte, toujours des excuses. Souvent, je ne vais pas utiliser le mot « toujours », mais souvent, on se trouve des excuses. Et on se trouve des excuses, pourquoi ? Parce que on sait qu'intérieurement, parler de Christ, ça va nous demander un sacrifice. Ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas, en fin de compte, à l'être humain. Sortir de la zone de confort, c'est quelque chose que l'on devrait vraiment expérimenter. Parce que sinon, comment on ferait, en fin de compte, pour expérimenter la puissance de Dieu tout en restant dans notre zone de confort? Comment pourrait-on vivre la Pentecôte des actes comme ils l'ont vécu tout en restant dans la chambre haute? Comment on fait, en fin de compte, pour vivre la joie du salut, participer à cette joie sans la transmission de l'amour et de la grâce de Dieu qui en découle? Sortir de la chambre haute, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Pour les disciples, sortir de la chambre haute, c'était pas la fête. C'était pas, il n'y avait pas la foire dehors, ok, on va s'amuser. C'était pas ça du tout. Ils étaient revêtus de l'Esprit. L'Esprit les conduit en dehors pour pouvoir proclamer les œuvres de Dieu, proclamer qui est Christ. Mais dehors, les personnes étaient ennemies. Ennemis, en fin de compte, des disciples. Ennemis, pourquoi ? Parce que les Juifs en extérieur, c'est eux qui ont crucifié Jésus. C'est eux qui ont préféré garder, laisser la vie à un meurtrier pour donner la mort à Jésus qui n'avait pas péché. Donc, le fait de sortir de la chambre haute, c'était sortir de leur zone de confort. C'était, ok, on sait que ce que Jésus a vécu, on va devoir vivre, on va devoir passer par ça. On sait qu'on va être confronté, on sait que ça ne va pas être facile. Mais lorsque l'Esprit vit en nous, lorsque cette espérance vit en nous, comment pourrions-nous garder une si grande espérance, un si grand amour, un si grand salut pour nous? Comment pourrions-nous le garder? Dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Paul était en prison à cause de l'Évangile. Mais les Éphésiens, en fin de compte, n'auraient pas pu connaître Christ sans que Paul annonce l'Évangile. C'est pourquoi il leur dit « Ok les gars, ne regardez pas mes souffrances, mais regardez plutôt la gloire qui découle de cette souffrance. Vous étiez perdus, éloignés de Dieu, mais aujourd'hui, vous bénéficiez de son amour, vous bénéficiez de sa grâce et de son salut. » Et pour cela, rien que pour cela, le sacrifice en vaut la peine. En 2021, encore aujourd'hui, Jésus continue son œuvre dans la vie de personne. Jésus continue de toucher, Jésus continue de bouleverser des vies. À l'heure actuelle, il y a des personnes qui reçoivent ces paroles et qui, en fin de compte, s'abandonnent complètement à lui, encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont sorties de leur zone de confort. Ils sont sortis de la chambre haute. Ils ont bravé le temps belge. Au matin, il fait bon, à midi, il pleut, après-midi, c'est la neige, et au soir, on fait un barbecue. Mais il fallait passer par ça. Il savait que cette personne, il a sorti son matériel pour aller moissonner, il a bravé le temps, et ça a été difficile. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Voir une vie transformée par l'amour et la grâce de Dieu n'a pas de prix, mes amis. Pour ceux qui ont eu la chance d'être parents, lorsqu'on porte son enfant, lorsqu'on le voit naître, c'est une joie indescriptible. Mais mes amis, une vie transformée par Dieu, c'est une vie éternelle, ça a une portée éternelle. Et je pense qu'on n'arrive pas à réaliser, parce que ce n'est pas quelque chose de perceptible, mais une personne qui se retourne vers Christ, c'est quelqu'un qui va nous accompagner dans l'éternité pour louer Dieu avec nous, pour l'éternité. Alors, levons nos yeux. Lorsque je reviens vite fait à la petite histoire de tout à l'heure, lorsque je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de voir s'il y a des poissons. Je me suis posé, je me suis arrêté, j'ai observé ce qui se passait à la surface des eaux et en fin de compte, j'ai eu le privilège de voir cela. Mais il a fallu que je lève les yeux, il a fallu que je m'arrête, que je lève les yeux et que je prenne le temps. Vous allez peut-être me dire, mais ok, on va sortir, mais j'ai tellement peur. Ok, je comprends, c'est normal. Mais il y a une chose sur laquelle on peut se baser. Et c'est ce que la parole nous encourage, c'est ce que la parole nous apprend. Dieu est infini. Il n'a pas de limite. Lorsque on viendra parler avec quelqu'un, levons les yeux au ciel et disons-lui, Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi lui dire, mais le Seigneur mettra sa parole dans notre bouche. N'ayons pas peur, fortifions-nous. Il y a une chose également qui est importante, c'est que tout à l'heure je parlais de souffrance, mais après toute cette souffrance, il y a un salaire. Et ce salaire, c'est la joie. Jésus dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a une vraie joie, il y a une véritable joie à participer à l'œuvre de Dieu. Après tant de travail, tant de sursauts, émotionnel, tant de sursauts spirituels. Une personne s'ouvre à Christ et lui confie sa vie. Nous allons pouvoir fêter cela ensemble. C'est une joie indescriptible. Nous allons pouvoir rendre grâce à Dieu pour son infinie bonté. Mes amis, travailler à la moisson, c'est développer une attitude de reconnaissance, car nous croyons que Dieu bénit de sa présence et de son œuvre d'autres personnes et que nous allons pouvoir nous réjouir de cela. Une réjouissance. Il y a une réjouissance à participer à la moisson. Alors, je voudrais vous laisser avec quatre petites astuces qui vont nous aider à lever les yeux et en fin de compte à moissonner. Et je clôturerai avec cela. La première chose, je dirais, repère quel est ton champ de mission. Repère quel est ton champ de mission. Quel est ton cercle d'influence? Quelles sont les personnes que tu côtoies le plus régulièrement, au quotidien? Il est bon de commencer en regardant le milieu dans lequel Dieu nous a placés. Souvent, moi pour ma part, personnellement, j'ai vécu cela, je me suis vraiment dissocié du milieu dans lequel j'étais. Je me suis dit, ok, ce milieu-là, c'est le péché, c'est voilà. Et je pense que j'ai dû à un certain moment, au début de ma conversion, vraiment m'écarter de ça, parce que ça aurait pu peut-être me réentraîner, à simplement abandonner Dieu. Ça aurait peut-être pu me rattraper. Mais à un certain moment, le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur, ok, tu vois le milieu d'où tu viens, tu vois ces personnes. Je veux que tu reprennes contact avec eux. Et je veux que tu continues de les côtoyer. Alors évidemment, on ne se voit plus comme à l'époque, on se voyait 24 sur 24, 7 jours sur 16, c'était les amis d'abord, la famille, machin. Mais à l'heure actuelle, je prends plaisir à prendre du temps avec eux, je prends plaisir à discuter. Et quelle que soit, en fin de compte, leur croyance, quelles que soient les différences qu'on peut avoir au niveau culturel, au niveau doctrinal, au niveau théologique, on s'en fiche. Le principal, c'est d'aimer. Le principal, c'est de passer du temps avec des personnes différentes. Et croyez-moi, Dieu ouvre l'occasion de parler de lui. J'ai un ami qui s'est tourné vers, on va dire, tout ce qui est New Age, spirituel, des trucs un peu ésotériques, etc. Et c'est comique parce que à chaque fois qu'on a une discussion, à chaque fois qu'on passe du temps ensemble, il ne faut pas un quart d'heure pour qu'il commence à parler spiritualité et qu'il me dise « Tiens, vas-y, raconte-moi dans la Bible comment ça se passe, raconte-moi un petit peu Jésus, raconte-moi machin, on parle de religion. » Et il ne faut pas un quart d'heure et en fin de compte, on passe plus notre soirée à parler de religion, de spiritualité, de la vie de tous les jours. J'ai des amis musulmans également avec qui on parle et on échange nos points de vue. Et c'est bon, en fin de compte, de passer du temps avec des personnes différentes de nous. C'est mon milieu, c'est là où Dieu m'a fait grandir. Et c'est là où il veut simplement que je sale. C'est là où il veut que j'apporte de la lumière. C'est là où se trouve ma place. Alors, acceptons le milieu dans lequel Dieu nous a placés, parce que c'est là qu'il veut que nous soyons une lumière, premièrement. Alors peut-être qu'il vous a appelé à autre chose, à un autre endroit, peut-être à un autre pays. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais soyons une lumière dans le milieu dans lequel Dieu nous a placés. Deuxième chose, et rien de nouveau sous le soleil, priez. N'ayons pas peur de prier et de demander à Dieu, en fin de compte, qu'il puisse nous permettre d'ouvrir notre bouche ou de rencontrer des nouvelles personnes, de connecter avec de nouvelles personnes. Croyez-moi, Dieu répond vite à ça. Donc, on a tous des sujets de prière où on dit « Ah Seigneur, j'aimerais bien telle maison, telle voiture, telle... » Et Dieu, il nous fait patienter sur ce genre de choses. Il travaille notre patience. Mais croyez-moi, quand vous demandez à Dieu, « Seigneur, aujourd'hui, j'ai envie que tu m'utilises pour parler de toi. » Dieu, il entend. Et croyez-moi, ça ne tarde pas. Par contre, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Quand je prie comme ça, souvent je me dis, « Waouh, mince, mince, je suis en train de prier, c'est trop tard, la parole, elle est dite, c'est trop tard, c'est trop tard. » Et je sais que Dieu va répondre à cette prière. Et il crée une connexion. demandant à Dieu de nous permettre d'entrer en connexion avec des personnes et de créer un moment où on pourra témoigner et partager l'Évangile en utilisant les bons mots. J'ai voulu mettre ce petit passage, utiliser les bons mots. Au début de ma conversion, on est tellement tout feu, tout flamme, que voilà, ce qui est mis dans la Bible, on expose tout comme ça. Et on parle du péché, on utilise des mots théologiques, et les gens, ils captent que dalle, quoi. Pour un athée, le péché, qu'est-ce que c'est ? Avec un musulman, parler du péché, il comprend. Un athée, il ne comprend rien, il ne sait pas de quoi on parle. Essayons d'utiliser des mots qui vont permettre de faciliter, en fin de compte, la communication. Pareil pour notre témoignage, ça ne sert à rien de faire un témoignage trop compliqué, rentrer dans des détails parce que Dieu vous a délivré, vous avez une délivrance toute particulière. Prenez le temps, expliquez simplement qui est Jésus, ce qu'il a fait dans votre vie, qu'est-ce que ça a changé. Vous avez retrouvé une relation avec Dieu et c'est certainement ce qui est le plus important. Si Dieu vous a libéré, comme moi je l'ai été, de la drogue, de l'alcool, ou qui vous a libéré d'autres choses, d'autres addictions, gloire à Dieu, et n'hésitez pas à le dire. Mais ce qui est le plus important, c'est de retrouver une relation avec le Père, avec le Créateur. Ce qui est le plus important, en fin de compte, c'est de révéler qui est Jésus, parce que c'est pour ça qu'il est venu, Jésus, pour nous révéler qui est Dieu. Ça pourrait même, en fin de compte, ça pourrait être même chouette de pouvoir créer des, comment je vais dire, créer en fin de compte ensemble. On se réunit, ça me passe comme ça par la tête, mais une petite dizaine, et on crée en fin de compte des témoignages et comment témoigner simplement, créer un petit témoignage, une, deux minutes, raconter simplement ce que Dieu a fait pour pas commencer à faire des témoignages de 10, 15 minutes et les gens captent que dalle et pour eux c'est complètement ça pourrait être fait. Troisième chose, établir des connexions avec les personnes. Il y a quelques années, j'ai lu une étude américaine qui ont demandé à des milliers et des milliers de chrétiens comment ils se sont convertis. Et l'étude est très claire. 90% des personnes qui se sont converties ont entendu parler de Dieu au travers d'une relation personnelle. La famille, le quartier dans lequel il habite, le travail et les loisirs. Ce sont quatre cellules dans lesquelles on a le plus de chances de parler avec Dieu. Et c'est là où on a le plus de chances également, en fin de compte, de connecter avec les gens. C'est là où on a le plus de chances d'entrer en connexion facilement parce qu'on connaît, parce que la famille, c'est la famille, parce que le travail, on passe 8 heures au travail. Les loisirs, on en fait, 4, 5, 6 heures par semaine. C'est là où on est le plus susceptible de pouvoir entrer en connexion avec des personnes. Et comment on fait pour entrer en connexion avec des personnes ? Ben, c'est simplement un petit bonjour, tiens, comment tu vas ? C'est savoir écouter. On veut tout le temps parler, on veut vite parler, on veut prendre la parole sur les choses, mais prendre le temps d'écouter, ça permet d'entrer en connexion réellement avec quelqu'un. Ça peut être offrir de l'aide. Ça peut être offrir de l'aide à quelqu'un qui va déménager, un ami qui va déménager. Ok, on offre son aide, on entre en connexion et on démontre de l'amour par des petites choses. Je pense que c'est au travers des petites choses, en fin de compte, qu'on peut être le plus efficace. Et la dernière chose, le dernier point, c'est laisser le Saint-Esprit agir. Lorsqu'on se retrouve à se connecter avec quelqu'un, se poser la question, tiens, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place là maintenant ? Comment est-ce qu'il aborderait la discussion ? Quelle attitude il aurait envers cette personne ? Peut-être qu'au travail, on est dans une situation un peu conflictuelle avec son responsable, avec un collègue. Ok, Seigneur, comment est-ce que je peux manifester le fruit de l'Esprit ? Quel fruit de l'Esprit, en fin de compte, je dois manifester maintenant ? Est-ce que tu veux que je démontre plus d'amour ? Est-ce que tu veux que je démontre plus de patience, plus de maîtrise de moi ? Demandons à Dieu comment se laisser guider, comment laisser le fruit de l'Esprit se manifester dans nos vies. Donc, quatre choses. Repérer le champ de mission, prier pour que Dieu puisse ouvrir des portes, établir des vraies connexions avec les personnes et laisser le Saint-Esprit agir. On va conclure. Donc, je vais peut-être demander aux jeunes s'ils veulent bien venir pour... Et vous pouvez commencer à jouer. Jouer. Ouais. Mes amis, le champ de la moisson est prêt. Il n'attend que nous. Dieu a laissé des principes spirituels pour que nous soyons disposés à accomplir sa volonté et son œuvre. Prenons en compte la... Prenons un temps pour comprendre la responsabilité qui émane de notre salut. Parce qu'il y a une vraie responsabilité. Cette responsabilité, c'est de pouvoir moissonner parce qu'on est dans une région qui regorge d'âmes vides et assoiffées de Dieu. Et Dieu désire nous utiliser, vous, moi, chacun de nous, ici, mais également l'Église de Charleroi. Il y a 600 000 personnes qui attendent d'entendre parler de Dieu, qui attendent de pouvoir recevoir la révélation de Dieu dans leur vie. Et ça va passer par chacun de nous. Ce n'est pas un ministère super, super glorieux d'évangéliste ou de pasteur. Non, ça passe par chacun de nous. Nous avons chacun notre bulle sociale. Nous avons chacun des personnes que nous pouvons atteindre, que nous pouvons écouter, avec lesquelles nous pouvons partager, avec lesquelles nous pouvons, en fin de compte, communier. Mais pour cela, il va falloir lever la tête, lever les yeux. Pour ça, il va falloir accepter qu'il y a une moisson, accepter de sortir de sa zone de confort, accepter de sortir de la chambre haute, accepter également que les personnes qui vont être en face de nous ne seront pas tendres. Mais n'oublions pas, l'Esprit de Dieu demeure sur nous. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu nous accompagnera. C'est l'Esprit de Dieu qui mettra les paroles dans nos bouches pour pouvoir proclamer son évangile, proclamer une personne, Jésus-Christ, pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons bientôt déconfiner, c'est une vraie grâce, et nous allons pouvoir travailler en toute liberté. Mais quand bien même confinés, ce rôle demeure. Prenons conscience de cela et acceptons avec joie et avec, en fin de compte, quel honneur que Dieu nous fait de pouvoir participer à ce labeur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore. Nous te remercions car tu es présent. Et nous te remercions, Seigneur, car ta parole est vivante. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que cette parole nous fortifie jour après jour. Dès que nous prenons le temps de l'ouvrir, dès que nous prenons le temps de lire, dès que nous prenons le temps, Seigneur, que nous laissons l'Esprit, Seigneur, nous parler, nous guider. Tu places en nous des choses. Tu nous affermis dans notre croissance. Tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de ressembler de plus en plus à Jésus. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour l'Église, parce que ensemble, Seigneur mon Dieu, c'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble, Seigneur mon Dieu, que nous vivons cela et que nous devons vivre cela. C'est ensemble que nous devons vivre, Seigneur mon Dieu, cette moisson. Et nous te louons, Seigneur mon Dieu, parce qu'à la tête de cette Église,
il y a Christ. Et c'est lui qui nous guide et qui nous dirige. Alors Seigneur, nous désirons encore ce matin te dire, sois le bienvenu dans ton Église, ici et dans la région de Charleroi. Sois le bienvenu, Seigneur mon Dieu, et permets-nous, Seigneur mon Dieu, de déconfiner, de libérer, Seigneur mon Dieu, ta parole, de libérer, Seigneur mon Dieu, ton amour, de libérer, Seigneur mon Dieu, ta grâce. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, de libérer, Seigneur mon Dieu, ta puissance. Tu es vivant, Seigneur, et tu agis encore dans les cœurs. Attire les âmes à toi, Seigneur. Continue d'attirer les âmes à toi, Seigneur. Et utilise-nous, Seigneur mon Dieu, pour saler, pour donner, rendre le goût, Seigneur mon Dieu. Envoie-nous moissonner. Envoie-nous, Seigneur mon Dieu, chacun sur notre champ de mission. Apprends-nous à nous confier en toi. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à prier, Seigneur mon Dieu, et à ne dépendre que de toi. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à laisser ton esprit se manifester avec puissance et en utilisant, Seigneur mon Dieu, les fruits de l'esprit que tu as placés en nous. Permets-nous, Seigneur, de nous connecter avec ceux que tu placeras sur notre chemin. Une vraie connexion, des vraies relations, authentiques. Nous te louons pour cela, Seigneur. Nous te louons, Seigneur mon Dieu, car nous savons que tu es en train d'agir et que nous allons pouvoir expérimenter ces choses. Et pour tout cela, Seigneur, nous sommes déjà dans la joie. Merci, Père. Merci pour qui tu es. Merci d'être venu nous racheter. Merci d'avoir permis que la relation avec le Père soit rétablie. Que ton nom soit béni, soit loué, exalté, ici et sur toute la terre, à tout moment, en tout lieu, dans le nom de Jésus.